Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B. Dans cet épisode de Gymnastique sonore, on découvre des souvenirs familiers, Basso, mémoire d'enfant des années 50. C'est un documentaire de Léa Grange et de Myriam Hassoun dans lequel elle raconte l'histoire d'un quartier d'Angoulême. Cet ancien camp militaire pendant les guerres a été transformé en logement de fortune par celles et ceux qui en avaient le besoin, puis détruit dans les années 70. Le travail de Léa et Myriam met en lumière la mémoire collective de ce quartier, fait de baraques, de galères, de jeux et d'entraide. Bonne écoute.
Je suis né dans la cuisine, au 96 Cité de Basso, dans l'ancien camp militaire. Mes parents étaient d'un autre quartier d'Angoulême, ils habitaient Saint-Cybard. C'était des jeunes, évidemment, et ils vivaient chez les parents de ma mère. Et comme la famille s'agrandissait, c'était plus possible, ils avaient déjà 3 enfants, maman en attendait un 4e. Donc il fallait trouver une solution. Et ils ont entendu parler comment, je ne sais pas précisément, mais qu'on pouvait squatter cet ancien camp militaire à Basso. Donc ils ont pris leurs 4 meubles et leurs 4 guenilles et ils ont investi le 96 Cité de Basso. Voilà, ça c'était en 1951, en janvier je crois.
Quand nos parents sont rentrés, ils ont été obligés d'enlever les ronces et nettoyer, parce que c'était mis à l'abandon, ce quartier-là.
Et nous sommes rentrés dans Basso en quelle année? 54 ?
52, non ? 53 ou 54, je ne me rappelle pas exactement.
C'est ça, on perd un peu aussi, parce qu'on n'a aucun papier qui nous rappelle la date.
Enfin, voilà, on s'intéresse à Basso. C'est le quartier le plus loin, mais c'est aussi un quartier qui a cette très forte histoire et une mémoire et un aspect mémoriel très très fort.
Je n'ai pas trouvé d'informations sur l'origine de ce quartier-là, qui était d'ailleurs, on le voit sur les photos, qui était quadrillé, grillagé, barbelé autour. Voilà. Et d'ailleurs, nous, quand on est rentré, il y avait toujours les barbelés.
On vivait derrière les barbelés, des murs avec des barbelés.
On a dans ce secteur-là à la fois l'industrie papetière, qui est largement représentée dans tout l'Angoumois, et puis une industrie complètement unique, qui est la poudrerie de l'autre côté. Tout ça bénéficiant du fleuve et puis à la fois d'une distance suffisante avec la ville. Mais à la veille du conflit de la Première Guerre mondiale, la main-d'œuvre, qui à l'époque est une main-d'œuvre locale, eh bien au moment de la Première Guerre mondiale, la population, la main-d'œuvre locale, elle ne suffit plus.
Dans la guerre actuelle, le facteur économique joue un rôle de premier plan. La France, après l'Angleterre, est le 2e empire colonial du monde, empire de 110 millions d'habitants.
On va faire venir des main-d'œuvre coloniale qui vient d'Indochine. Et pour recevoir cette main-d'œuvre coloniale, on va aménager un camp pour la main-d'œuvre indochinoise, qui est un camp de travailleurs avec des conditions concentrationnaires. Ce camp, il est fermé. Ce camp, il est surveillé par des militaires et ces Indochinois travaillent pour la poudrerie.
Nous, en vivant dans ce quartier, on était gamins, donc on voyait bien le camp était entouré de fils barbelés. Nous, quand on dit Basso, on pense souvent à Caen, parce que c'était l'image qu'on avait.
Après la Première Guerre mondiale, au niveau du camp indochinois, qui sort de terre dans les années 1914-1918, eh bien, on a ici un lieu qui va être réinvesti en lieu d'un tas d'emprisonnement pour les prisonniers donc politiques, les résistants qui sont pris par les troupes allemandes. Et donc, ce camp indochinois va être occupé par ces prisonniers résistants. Et puis, à la libération, hop, on change de camp. Et ce camp va devenir à nouveau un camp de prisonniers, mais cette fois-ci pour les soldats allemands. 1945, eh bien, le camp est toujours propriété de l'armée, mais on n'a plus vraiment utilité. Et donc, en 1947, il n'est plus utilisé par l'armée. Et c'est même devenu finalement assez embêtant. Il y a trop, enfin voilà, pour gérer cet espace-là, c'est un peu compliqué. Il y a 125 baraquements qui sont disséminés sur 20 hectares.
Depuis un an, dans le chaos des villes sinistrées, des hommes vivent. La guerre leur a tout pris, ils n'ont plus de toit, et voici l'hiver.
Au milieu de l'année 1951, à l'été 1951, des familles donc de personnes qui sont sans logis, hein, ou mal logées, eh ben, décident d'investir les baraquements. Donc, ces baraquements, ils ne sont pas forcément entretenus, hein, c'est plutôt un salibre, et puis ils vont s'attribuer légalement ces baraquements. Dans la presse, on les appelle les squatteurs. Ils commencent déjà une sorte de... Comment trouver quel mot utiliser. Ils ne sont pas disqualifiés, ils sont très mal vus, ces gens-là. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage, les points d'eau et les toilettes sont collectifs. Enfin, voilà, ils sont stigmatisés, ces personnes, c'est le mot que je cherchais. Mais eux, ils investissent des lieux qui finalement étaient inoccupés et puis ils vont se les réapproprier.
Les baraquements, c'était des maisons, hein, ouais. pour nous c'était des maisons. D'accord. Hein. Les maisons sont là, hein, toutes ces maisons.
Et comment est-ce que vous savez pourquoi vos parents sont allés s'installer dans ce quartier?
Parce que ça ne devait pas être cher, certainement.
Voilà, hein, tout simplement. Bon marché. Papa, il n'était pas fortuné, ni maman.
Il faisait quoi, vos parents?
Mon père était préposé au poste, hein. Donc ça s'appelait comme ça, je ne sais pas quelle fonction ça avait. Quant à ma mère, eh ben, elle s'occupait des enfants, donc elle était...
Mère au foyer.
Elle a fini à la rue d'Angoulême. Avec peu de moyens, et on s'est retrouvés là-bas, comme des centaines de familles. Alors il n'y avait pas que des gens de petits moyens, puisqu'il y avait pas mal de le haut du quartier, parce qu'il y avait le bas et le haut du quartier. Et donc le bas était plutôt, c'était plutôt la cour des miracles. Et la partie du haut, c'était plus les gens qui travaillaient à la SNPE, la poudrerie D'accord. nationale.
Nous allons commencer à poser quelques questions parmi beaucoup d'autres à Madame Robert.
Madame Rémy.
Ah pardon, Madame Rémy. Voyons, Madame Rémy, pourriez-vous nous dire par exemple quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans votre logement?
Enfin, vous savez, monsieur, les principales difficultés que je trouve dans mon logement, c'est que c'est un logement qui n'y a ni eau, ni gaz, ni électricité, ni water. Et nous avons très loin à aller chercher l'eau, et la descendre et la monter. Vraiment, c'est pénible.
Et vous devez réserver plus de place pour les enfants,
enfin... Ben, vous savez, la place qu'on peut réserver aux enfants, c'est que dans une pièce, il se pose 5 lits, et il y a une toute petite, enfin, juste pour les lever, les mettre debout et les amener à la cuisine, les faire manger deux fois, qu'on ne peut pas mettre la table en une seule fois.
Angoulême, le 4 juillet 1952. Monsieur le maire, je viens vous signaler par cette lettre notre cas. Nous sommes mariés depuis le 9 février 1952 et j'attends un bébé pour la fin du mois et personne dans les hôtels veut nous prendre avec l'enfant. Aussi, je viens vous demander non pas un secours pour nous, mais pour notre bébé quand il sera né. Si vous pouviez nous faire avoir une pièce dans la cité de Basso, rien que cela, monsieur le maire, on serait les plus heureux. car je ne sais pas comment faire avec mon bébé et je ne voudrais pas l'abandonner. C'est notre premier enfant. Je pourrais rester dans un meublé qui accepte les dames.
Le 22 avril 1953. Monsieur, tout d'abord, je viens m'excuser de vous importuner, mais j'espère que vous ne m'en saurez pas grief et que vous ferez votre possible pour nous contenter vu notre situation actuelle. Nous sommes un jeune ménage qui cherchons un logement depuis au moins 2 ans. Depuis le mois de novembre, nous vivons dans une petite pièce de 12 mètres carrés. Une vieille chaudière de chauffage centrale occupant 1 mètre carré. Cette pièce sans gaz, sans eau, en plein nord, est située au sous-sol. Elle est très froide et très humide. J'avais déjà fait une demande au mois de septembre dernier. Je viens donc la renouveler pour un logement à la cité de Bassot, car impossible d'en trouver ailleurs. Des promesses et c'est tout.
Monsieur le préfet, marié et père de 2 enfants et une parente impotente, nous occupons un appartement insalubre dans un sous-sol du rempart de l'Est. Je sollicite de votre haute bienveillance l'obtention d'un logement à la cité de Bassot.
Que nous vous supplions d'avoir recours à nous, surtout pour notre futur enfant.
Monsieur le maire,
avec mes remerciements.
Je vous demande de vous renseigner pour voir que je ne vous mens pas. Recevez ma plus haute considération.
Recevez, monsieur le préfet, avec mes plus respectueuses salutations, l'expression de ma haute considération. 6 juin, un certificat médical.
Angoulême, le 15 décembre 1952. Monsieur le secrétaire général, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre par laquelle vous avez bien voulu attirer mon attention sur la demande de logement à la cité de Bassot, présentée par monsieur José. Le nombre des demandes parvenues à mes services depuis 1 an s'élève à près de 400, alors que les possibilités de logement à la cité de Bassot ne permettront, et au printemps seulement, que l'installation d'une 30aine de familles au maximum, en plus de celles déjà relogées à ce jour. En présence de cette situation, je ne peux que laisser le soin à l'intéressé de rechercher par ailleurs l'appartement que j'aurais été heureux de lui réserver à Bassot si les circonstances l'avaient permis. Je vous en exprime mes regrets. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'assurance de ma considération distinguée. Signé le chef de la 3e division pour le préfet et par délégation.
L'urbanisme était fait un peu bizarrement, si tu veux. T'avais des blocs de maisons comme ça, une rue latérale, une autre rue qui coupait comme ça, et des blocs comme ça. Des maisons faites toutes sur le même acabit. T'avais une entrée. Alors, t'avais une entrée, une pièce principale, un couloir, et des pièces comme ça, mais c'est tout. C'est tout, il n'y a rien d'autre, en fait. Hein.
Oh, ben, pas d'isolation. L'hiver, quand il faisait bien froid, on voyait la glace sur nos murs à l'intérieur. On passait aussi bien par la fenêtre que par la porte.
Alors, la fenêtre, c'était la Charente libre. Hein. On n'avait pas du tout de...
Pas dans les maisons. Hein.
Non.
Le matin, quand on allait à l'école, hein,
c'était
vite... L'eau était pas chaude.
Ma mère était coiffeuse à Mansle. Elle avait un salon de coiffure à Mansle. Et mon père avait un magasin de chaussures, cordonnier. Et je pense qu'à une certaine période, ils n'ont pas fait de bonnes affaires. Ils ont entendu parler qu'à Bassot, il y avait un moyen de se loger. Donc on est arrivé là, je pense, en 52. Enfin, là où on est arrivé, c'était le porche. Et le porche, il avait entouré de barbelés. On était comme dans une cité de prisonniers. Et on était juste derrière la maison et juste derrière les barbelés. Tout près de chez les Gautier étaient juste à côté de chez nous. Là. 86, cité de Bassot.
Voilà, c'était ça. Alors maman s'occupait d'une vieille dame qui habitait dans le lieu qu'ils voulaient prendre, puisqu'ils avaient la petite pièce à côté. Et quand elle est décédée, je pense que c'est les pompiers qui étaient venus la chercher, le voisin qui était un grand ami et ami d'enfance même à papa, il a dit vite, j'ai commencé à clouer les contrevents, mais viens vite, autrement elle ne sera pas pour toi. Alors ils y sont allés, mais les tontons qui étaient là, ils sont tous descendus, et puis ben voilà, ils ont gardé toute la nuit pour qu'on puisse avoir la place, parce qu'on était déjà 5, 7 avec les parents, à dormir tous dans la même pièce. Pas d'eau, pas de salle de bain, pas de boîte à air, rien du tout. Voilà, c'est comme ça qu'on l'a eu. Voilà, c'était ça. Les souvenirs. Mais c'est vrai, en plus, je vous assure que c'est la vérité.
Maman racontait beaucoup, elle racontait surtout ses peurs. Le quartier était quand même... Il avait été abandonné pendant un certain temps, il y avait des ronces partout, il y avait rien qui fermait vraiment à clé. Donc voilà, on savait que... Ils avaient un peu Squatter, ça voulait dire, évidemment, trouver ce qu'ils ont trouvé, quoi. Il n'y avait pas grand-chose. Souvent, il n'y avait pas de volets, ou il manquait des portes, ou...
Ainsi vivent dans les conditions de la misère des centaines de familles aux portes de la grande ville. Insouciants, des enfants meublent ce décor sans espoir de leur jeu sans fin.
Et donc, nous étions quand même quatre, avec mon grand-père, ma grand-mère, papa, maman. Donc nous étions huit. Donc, dans une chambre, il y avait toujours, papa, maman, dans une chambre, avec un petit lit à côté, qui était pour le dernier des arrivés. Mmh. Donc, nous étions quatre à l'époque. Mmh. Après, il y avait une grande pièce, où au fond de cette pièce, il y avait deux grands lits de 140, où mon grand-père et ma grand-mère couchaient dans un lit de 140. Et les trois enfants qui restaient ont couché trois dans ce sens, l'autre dans l'autre sens, hein, au pied. Celui qui était au pied changeait la semaine d'après parce qu'il ne pouvait pas sentir les pieds. Et donc, il y avait une cuisinière, une grosse cuisinière, et puis une table, des chaises et un buffet. À bois et à charbon.
Eh bien, c'était des gens de faible budget, voilà. Hein.
Nous étions quatre garçons, mais il y avait des familles de 10, 11 enfants. Donc voilà, il fallait nourrir tout le monde, c'était pas facile. Hein.
À l'époque, Simone Veil et Françoise Dolto n'avaient pas écrit leurs bouquins. De toute façon, on ne les lisait pas, on n'avait pas les moyens de les acheter. Donc les conditions féminines étaient de familles très très nombreuses.
C'est effectivement, après avoir été un lieu compliqué, difficile, c'est un lieu de vie après. Comme dans des lieux abandonnés, toujours un peu de nature qui reverdit. Et puis, on s'approprie, la vie reprend le dessus. Et c'est chouette, voilà. C'est vraiment l'histoire de tous ces lieux. Mais là, en plus, il y a l'histoire des hommes qui va l'écrire.
Chacun avait un jardin avec des haies fleuries. Enfin, moi, j'ai encore dans le nez l'odeur de ce qu'on appelait les fusains, qui devaient être du Troène, en fait. L'été, vous voyez, des choses comme ça. Et tout le monde avait à cœur de... Par exemple, il y avait Monsieur Talon, qui avait un jardin splendide, je me souviens, avec des arômes, des trucs qui reviennent.
Moi, si j'aurais de l'argent, je m'achèterais un petit jardin puis un bâtiment qui est dessus. Mais tant que j'aurais pas de jardin, mais tant que j'aurais une petite maison dessus. Pas dire une villa.
Voilà, après, voilà, toi, il y a des photos, là. Ça, pour moi, on sait combien... à cette époque-là, le minimum, hein, c'était 5, hein. Nous, on était 5 dans les familles, à peu près. Nous, on était le minimum. Et tu es arrivé jusqu'à 13, hein. Tout ça. Ça, c'est la mère, mon copain Desvers. Elle, c'est la mère, Madame Desvers. Elle. Après, c'est la famille Gauthier, là. Tous les Gauthier. Après, là, c'est plus grand, que j'ai mis. Après, il y avait des sœurs qui se ressemblaient. Il y avait Galois et tout ça, là. Et bien, Paco, lui, il y a une des deux qui s'est mariée avec. C'est à cette époque-là, on n'allait pas à 50 km pour lui. Ça, c'est mon copain Patrick, lui. Bon, il était comme ça, il était en rôle, Après, là, c'est son fils. Ça, c'est son père, c'est son grand-père, son arrière-grand-père. Ça, c'est bien pour faire l'arme. Parce que moi, j'adore faire l'arme aussi. Bon, là, il y a celui-là aussi, là, toi. Donc, moi, après, si je peux t'en passer des doubles, les photos, là, quoi. Hop, attends, ça, le papier, c'est embêtant, là. C'était pas trop mal, toi. Bon. Après, parce que j'ai marqué les noms, là, quelques noms, de certains. Puis voilà, dans Bassot, voilà, tu vois, Bassot, voilà, comme c'était. Là, c'est Balthazar, une fille Balthazar, la plus vieille, la plus jeune, t'as Pépito Balthazar. Puis après, t'as tout cela, là, t'as Mokadem, t'as Zubizarreta. Fortin. C'était de l'autre côté du porche. Là. Alors, voilà, c'était toi et Jules Marc, tous les noms dessous.
Oui.
On était tous ensemble.
Oui, c'est vrai. Ah oui, je vous jure. On était, je sais pas moi, en tout. Alors, la famille Assoun, la famille Berthaud, il y avait la famille Guillot, la famille Dupuis, la famille Épaud. J'en perds parce qu'il en est passé les Fradet, les Guillot, Fradet Guillot, oui, il y avait les Vicard. On était tous ensemble, mais en tout, on était bien, rien que de ces quelques familles, on était bien 40 enfants. On se retrouvait tout le temps, on partait toujours tous. On en faisait. Et on partait tous ensemble. Hein. Alors, des fois, il y avait 25 enfants qui descendaient parce qu'il y en avait jusqu'en haut, l'archer Antoine, tu sais, la rue un peu plus haut. Et on descendait tous, on s'attendait chacun leur tour. C'était comme ça. Je vous dis, on partageait les goûters, on partageait. Moi, j'avais trouvé ça extraordinaire. Je n'ai jamais retrouvé une ambiance comme ça. De toute façon, la cité, c'est un peu comme ça qu'elle était vue, comme étant un clan fermé. Ça, voilà, c'était. Les gens n'aimaient pas, parce que c'est vrai que d'abord, c'était beaucoup de gens qui avaient des problèmes, non seulement d'argent, mais de beaucoup de choses. Hein. Mal nourris, pas soignés. Il y avait d'autres enfants qui étaient à l'abandon, les parents n'en avaient rien à faire, parce que c'était une époque où on buvait encore beaucoup, les gens, donc aussi bien les femmes que les hommes. Et ce n'était pas toujours joli à voir. Hein. Mais nous, on était dans un lieu qui était vraiment très agréable. Moi, des fois, il y avait des disputes, il fallait voir un peu, des fois, les femmes qui se battaient entre elles. Mais voilà, c'était quand la colère était passée, allez, tu viens boire le café avec moi, et puis tout le monde sera dîné, tout le monde. C'était quelque chose d'incroyable. J'étais curieuse en plus, donc dès qu'on entendait quelque chose, on courait, on ramenait tout le monde pour aller voir, c'était le spectacle. Oui, c'était le spectacle.
C'était comme ça que ça fonctionnait. Le quartier était entouré de forêts, de bois, et l'été, bien sûr, tu avais une poignée de gamins qui jouaient à pas d'heure dans les rues, il y avait des rues, bien sûr. Il n'y avait pas de voiture, donc aucun danger. Et là, c'était vraiment le rêve de... Enfin, moi, j'en ai des beaux souvenirs, hein, de cette période où tu passais toutes tes vacances dehors, quoi. Bonjour. L'été uniquement. Parce que... Quand on allait à l'école primaire, c'était autre chose. Pas seulement pour nous, mais surtout pour nos parents. Parce que nous, on s'en rendait pas bien compte. Mais eux, ayant vécu ce qu'ils avaient vécu, c'est évident que pour s'en sortir, il fallait bosser à l'école. Par exemple, je m'étais pris une baffe par un instit. Je m'en reprenais une deuxième en arrivant à la maison. Parce que même si j'avais raison, c'est une instit qui avait toujours raison. Et tout ça, quand je me rappelle, les copains, c'était pareil. Moi, je sais que mes parents n'allaient pas aux réunions. Bon, parce que d'abord, ils comprenaient très mal le français. Ils parlaient très mal le français. Et mes parents venaient d'Algérie. Voilà. Ben, ils mangeaient pas leur faim en Algérie. Hein. Et qu'ils avaient l'opportunité... Mon père de pouvoir avoir un travail et de pouvoir nourrir la famille.
Dans mon cartable, l'aide délivrée des cahiers, une gomme introuvable et des crayons cassés. Dans mon cartable, l'aide délivrée des cahiers, une gomme introuvable et... Est-ce que je l'aurais fait trois fois parce que là... Oui, je peux trouver une feuille de papier, une feuille de papier où j'ai dessiné un grand soleil doré.
Moi, j'étais souvent dehors, on s'élevait dehors. C'était les jeux collectifs, on jouait beaucoup à la marelle, on jouait aux osselets.
Peu avec les garçons.
Avec les garçons. Mais on était heureux, en fait. On était heureux. Et puis, ben, nous, c'était notre monde, c'était notre univers.
On ne connaissait
pas autre chose. On n'avait pas la télé. On avait peut-être un poste de radio qu'on allumait pour le jeu des 1000 francs à 13h et puis il fallait après arrêter parce qu'il ne fallait pas abîmer le poste de radio.
Le premier poste de radio qu'il y a eu à la maison, c'est moi qui l'ai acheté avec mon argent. Et mon père, il était ravi parce qu'il écoutait le Tour de France avec. Ah, ouais. Alors, je m'en rappelle, c'est un poste de radio rouge et noir. Je ne me souviens plus la marque. Continental Edition. Alors là, c'était...
C'était le monde qui est rentré dans notre maison avec la radio. Hein. C'est... Et la télé était arrivée chez d'autres voisins. Voilà, c'était des télés où on mettait une pièce de 1 franc. Pour regarder la télé. Alors, le jeudi après-midi, il y avait Zorro à la télévision. Et puis, on essayait de se cotiser les uns les autres. Et puis, on allait tous chez cette dame, Madame Dubois. Mais on était peut-être 15 gamins assis par terre. Elle était gentille, cette dame. Tout le monde s'accueillait, quoi. C'est...
Alors, c'était une télé à pièces, à l'époque. Il y avait un monnayeur, et donc on se regardait tous quand la télé se coupait, tout le monde se regardait qui allait sortir une pièce pour, et puis elle nous faisait de la pâtisserie un peu, des glaces à l'eau là, parce qu'elle avait le premier congélo, etc. Donc c'était un bon moment qu'on passait dans.
Alors je vais vous faire voir la photo quand même, ce qu'on appelait la garderie.
Ah oui.
Alors ça c'est le fameux toboggan quand on allait à la garderie. Il y avait une balançoire qui était très dangereuse. Hein. Aujourd'hui, ça serait interdit. Et puis, un toboggan, c'était pour qu'on soit occupé. Quoi.
C'était ici, et l'espace là, de jeu, il était par là. À côté de la balançoire qu'on a vu là.
La balançoire, qui était... Alors, il n'y avait aucune sécurité. Il y a eu des blessés, des fois, qui tombaient, parce qu'il n'y avait pas de sécurité du tout. Là. Alors là, on est tous ça en photo.
Alors, vous êtes où?
Alors, moi, je suis... Là, ici.
Alors, sous le toboggan.
Oui, ouais. À côté de Robert Semaille. Alors, Claude, t'étais où déjà? Je ne me rappelle plus.
Et là, il y a plein de toutes tout des connaissances, hein, ouais, tous les noms à peu près.
Un lieu dans le quartier de Basso qui nous pose à tous bien des interrogations, c'est le fameux rond-point de la piscine. Pourquoi ce rond-point de la piscine? Bah là, à l'heure actuelle, mais non, on n'a pas baissé les armes, on va trouver. À l'heure actuelle, on ne sait pas pourquoi on l'a baptisé comme ça. Quel était le projet sur ce lieu un peu carrefour?
Ça, c'était les arbres étaient existants là. Ouais. C'est des platanes.
On avait fait des marques en haut des arbres, voilà, mais on ne les trouvera plus.
C'était le bassin qui servait de rond-point quand on arrivait presque à l'école. On faisait le tour. Oui, on se baignait là-dedans l'été, mais il y avait quoi? Jusqu'aux chevilles, pas plus.
Oui, oui. Eh bien, je vais vous la faire voir, la piscine.
Là, voilà, le tour des arbres. Je l'ai traversé à moto en 1974, et j'ai fini à l'hôpital. Une voiture m'a percuté, donc j'arrivais très vite avec une grosse moto que j'avais achetée. Et voilà. Donc il est là, la piscine.
Et pourquoi ça s'appelait la piscine?
Ben, il y avait une piscine. Alors c'était un bassin qui était profond de 50 cm.
Ben, je sais pas.
Non, mais moi je vais la montrer.
On la voit plus.
Ah non, on la voit plus. Et on a les arbres qui vont à peu près déterminer le cercle là, que faisait la piscine.
C'est un peu dommage parce que c'est vraiment les derniers travaux qui ont fait disparaître la piscine, parce qu'elle a existé pendant longtemps.
Ouais. Ah oui,
ouais. Ouais. Pendant longtemps, ils ont gardé le rond-point. Moi, je crois qu'ils ont même... ils ont mis les poubelles. C'est un peu dommage, cette piscine, elle nous a un petit peu...
Bah oui, c'était un lieu de rond-point. Ouais. Libre comme l'air.
Oui, c'était ça. Hein.
Ah ouais, ouais.
On allait au pont de Basso, on avait... Allez, je me rappelle la première fois qu'on est descendu au pont de Basso, on était descendu avec Michel Girard qui restait chez sa grand-mère et on savait pas comment on allait faire pour remonter, on savait même plus où c'était avec Michel.
Oui, parce que c'était notre Michel. Baignade, hein, le pont de Basso.
Le pont de Basso, c'est là-bas, on a tous appris à nager sans que nos parents ne sachent même pas où on était. C'est pas difficile.
Toutes les familles étaient là-haut, enfin les familles, les gens, les adultes et les plus téméraires sautaient du pont de Basso. Dans la Charente et ainsi de suite. Quoi. Tous les déchets de la SNPE qui arrivaient. Donc, nous, on était sur la cascade et ça nous faisait des monticules de mousse jaune de toutes les couleurs. Et nous, on se faisait des perruques avec ça. Aujourd'hui, on dirait, mais faut rester à des kilomètres de ce produit-là. Et la Roche-Joubert qui déversait tous les déchets, à une époque, voilà. C'était plein pot. L'usine Rousselot par le biais des eaux claires, mais enfin, c'était plus bas. Mais surtout la SNPE, tout ce qui nous polluait, et on n'y prêtait pas attention. Hein. En fait, on vivait et dans le quartier et dans les bois.
Ah, c'était de la nature partout. Il y avait des renards. Eh oui, on voyait les animaux, il y en avait partout à cette époque-là. Même quand on descendait un peu plus bas par derrière ce qu'on appelait le truc où on allait en été, passer nos journées, il y avait un grand bois. C'était énorme et ça allait très loin. Hein. Oh, on en a bien fait. Oh, on en a fait. Des fois, on nous faisait courir. Hein. Oula, il y avait des mères, elles disaient les voyous, allez-vous-en. Pas plus voyous que les autres, mais bon, on avait besoin de se défouler. C'était ça.
Ah, tu veux que je te raconte une histoire? Ah non. Une fois, bon, toujours avec la même équipe, il y avait une maison où les gens, c'est vers les Trois Chênes, vers les cours de tennis qu'il y a aux Trois Chênes. On mangeait pas tous les jours de la viande, et ces gens-là avaient des poulets. On en a assommé une, on l'a cuit au barbecue dans le bois juste à côté. Non, c'était pas bon, parce que c'était mal cuit, c'était cramé. Mais on était contents.
J'y suis retourné voir tout à l'heure, mais ils ont fait des enrobés au pied.
Oh merde.
Et ça, c'était les deux arbres qui étaient devant chez Champao.
Oui.
Et du thym.
Mmh, du thym.
Voilà. Ça, c'était les arbres étaient existants là. Ouais. Et puis c'est des platanes.
On avait fait des marques en haut des arbres, voilà, mais ça,
on les trouvera plus. La marche arrière, badaboum.
Superbe. C'est de l'à peu près quand même.
Hein. Ils sont jolis. Hein,
je dis, pour les emplacements, c'est de l'à peu près.
Ouais. Ah, la rue était là.
La rue, oui. La rue, là.
C'était, cette rue allait aller tout droit jusqu'à la sortie de la commune.
Et là, c'est pareil. C'était bizarre d'ailleurs qu'il n'ait pas gardé. Sur les côtés, les murs étaient écroulés. Il y avait encore les fils barbelés, puis les baraques.
Alors là-bas, ça c'était une école maternelle qui existait là de tout temps. Oui. C'était cette école maternelle. Et j'ai une anecdote parce qu'il y avait une famille qui habitait là-bas qui s'appelait les Fragnaux, qui était des familles de délinquants. Les Fragnaux, toujours des voleurs, de tout. Il y avait des boxeurs là-dedans, il y avait toute une équipe, la mère Fragnaux des piliers de bar. Et je ne sais pas, la police les recherchait. Donc ouais. les gendarmes sont arrivés. Nous, on était déjà... Moi, j'étais en maternelle. Et les gendarmes arrivaient. Et toute la partie basse, après, c'était une petite vallée là-bas. Et donc, les Fragnaux ont foutu le camp avec des fusils de chasse. Et les gendarmes ont fait tac, 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 tac avec les mitraillettes. Et les institutrices nous faisaient rentrer vite dans les écoles. Vrai ou faux? Et ça cartonnait.
On était à la fenêtre des écoles.
Je me rappelle de la mitraillette qui faisait tac, 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 tac. Rien à voir avec les mitrailles de Cinoche. Tac, 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 tac. Et les autres, boum, avec les autres fusils de chasse. Et donc, ce bâtiment, il peut en témoigner, lui, parce qu'il existait.
Mais c'était un western.
Ah, bah, c'était Basso.
On a vécu comme dans un village. Moi, je... Pour moi, la ville, c'était l'inconnu, quoi. On était refermés sur nous-mêmes. On vivait pas en autarcie, je pense que la première fois que je suis sorti vraiment de Basso, à part d'aller chez le médecin ou des trucs comme ça, mais c'est quand je suis parti en sixième, quoi.
Heureusement que le milieu enseignant est arrivé dans cette cité pour instruire les gens et les sortir de leur ignorance. Hein, parce que c'est vrai qu'on vivait dans un ghetto et puis d'ailleurs on n'avait pas de moyens de locomotion pour en sortir.
Vous n'alliez jamais à Angoulême, enfin Angoulême-Centre, parce qu'aujourd'hui Basso c'est un quartier d'Angoulême.
C'est-à-dire que après il y a eu des bus parce que bon... Moi qui suis arrivée un petit peu plus tard, j'ai eu la chance de pouvoir entrer en sixième. Donc après, bon, moi j'étais au lycée. D'accord. Mais avant, bon, ma sœur qui, elle, bon, avait autant de capacités de moi, n'a pas eu le choix. Elle a été travaillée. Hein. Comme beaucoup de jeunes, à 14 ans, il fallait vraiment qu'ils rapportent de l'argent. Et à cette époque, eh ben, toutes les usines engageaient les jeunes. Hein. Ils allaient ou chez Leroy ou au papeterie La Roche-Joubert.
On ne savait pas qu'on était pauvres. Hein. C'est après, quand on a grandi, notamment en sixième, je n'ai pas trop senti, mais plus tard, quand je suis arrivé au lycée,
Vous veniez de Bassot ou...
Si on pouvait ne pas le dire, enfin moi je... Il y avait des regards et des réflexions qui étaient un petit peu... Surtout, enfin, on n'était pas plus pauvres que les uns que les autres. Tout le monde était à la même enseigne, mais il y en a pas. Moi, je me souviens des trucs comme j'avais pas de tenue de sport, par exemple. Je me souviens d'avoir, par contre, été défendu par un prof par rapport à un autre élève qui m'avait traité de fils d'ouvrier de Bassot. Le prof l'avait entendu. Il a commencé par lui donner une gifle, et puis après, il lui a fait une leçon de morale. Bon, ça m'avait conforté. Quoi. Je m'étais dit, bon, tout le monde n'est pas contre nous.
Fléac, le 15 juillet 1953. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'obtention d'un logement dans la cité de Bassot, au cas où lors du prochain mouvement des instituteurs, je serai nommé directeur à la nouvelle école primaire de garçons de la dite cité. Ma femme est également institutrice et nous avons 7 enfants à charge. C'est donc un logement assez important que nous désirerions. Veuillez agréer, monsieur le préfet, mes très respectueuses salutations.
Angoulême, le 27 septembre 1952. Monsieur le préfet, je viens vous demander pour la 3e fois si je pourrais avoir un logement au camp de Bassot, vu qu'il y en a qui sont prêts et qui me rendraient grand service. Vu ma situation, comme je vous l'ai déjà dit, je suis au 3e étage du 5 rue Prudent, dans une toute petite pièce avec mes 2 petites filles en bas âge, 4 ans et 2 ans, en plus d'une grande de 21 ans qui n'a pas de santé. Il lui faut grand air, ainsi que les petites aussi, qui sont toute la journée renfermées dans ce petit logement. Avec mon fils qui arrive au mois de mars de l'Indochine, nous ne pourrons plus rester dans un logement
Saint-Michel,
pareil.
Saint-Michel, cité Bel Air, le 20 octobre 1952. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance un logement au camp de Bassot pour ma mère. En effet, le domicile de ma mère a été détruit par incendie en août 1944 par les Allemands. Ma mère n'ayant pu retrouver un logement, est obligée de vivre 6 mois de l'année chez une de mes sœurs et le reste de l'année chez moi. Bien entendu, ma mère serait heureuse d'avoir un logement bien à elle, car ma mère a encore 4 de ses plus jeunes enfants qui vivent avec elle, dont un fils sous les drapeaux et un autre qui doit être appelé sous les drapeaux au mois d'avril. De plus, ma mère est veuve de guerre, mon père étant décédé des suites de ses blessures à la guerre de 1914. Donc, Monsieur le préfet, cette situation de sans logis ne peut plus durer. Ma mère, étant lasse d'être constamment à la dérive, ne peut continuer son existence de la sorte. Je dois recevoir à mon tour ma mère et mes plus jeunes frères, n'étant pas très bien logé moi-même, 3 petites pièces pour 9 personnes, car j'ai moi-même 7 jeunes enfants, et nous serons vraiment à l'étroit. Donc, monsieur le préfet, s'il était en votre possibilité de me faire obtenir un logement pour ma mère au camp de Bassot, je serai très heureuse de voir ma mère être enfin chez elle. Dans l'espoir, monsieur le préfet, que vous prendrez ma demande en considération. Veuillez agréer, monsieur le préfet, mes salutations.
Angoulême, le 27 octobre 1951. Monsieur, j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 27 septembre dernier, par laquelle vous sollicitez à nouveau l'attribution d'un logement à la cité de Bassot. J'ai pris bonne note de votre demande, mais je crois devoir vous informer qu'elle s'ajoute à un nombre considérable d'autres demandes déjà parvenues à mes services. Les locations seront faites compte tenu de la qualité de prioritaire des demandeurs. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. Signé le secrétaire général pour le préfet.
Il y avait
des
toilettes,
il y avait
des toilettes. Il y avait des toilettes.
Oui, il y avait des toilettes. Je crois que c'était au fond du jardin.
Ah non, non, non. Il y avait des toilettes, non. Il y avait...
C'est souvent qu'on allait déboucher.
C'était plein.
Qu'on allait déboucher la
société. C'est que le soir, elle a tombé du soir. Et on levait les trappes, on tombait dans les fosses septiques. Et puis on faisait le. Pour que ça fasse baisser dans la cuvette. On prenait dans la fosse et on répandait ça dans le jardin. Et bizarrement, on voyait la fumée des cigarettes, parce que tout le monde fumait, et dans les jardins environnants, et ça sentait la merde.
Nos parents, nos papas, surtout, disons 80% à 90% buvaient. Mmh. Voilà, donc c'était un peu la misère, quoi. Ouais.
Et l'on retrouve encore M. Chaban-Delmas dans d'autres secteurs de l'actualité. Le Premier ministre a l'habitude, depuis quelques mois, d'évoquer souvent ce problème. Il s'agit de l'habitat insalubre, autrement dit des bidonvilles. Le point avec Christian Guy.
Pour les bidonvilles, nous allons doubler l'action qui s'appuie depuis 1964 sur la loi Debray. Doubler l'action de telle manière que, au plus tard, en 1972, il n'y ait plus du tout de bidonville, ni dans la région parisienne, ni en France.
Ce pari, le Premier ministre l'a lancé il y a 18 mois. Il en reste 16 pour le tenir. Ce sera difficile.
Et donc, en 1957... on a deux immeubles qui sont construits et qui abritent 50 logements. En fait, de 58 à 59 commence finalement la construction vraiment de la cité de Basseau. Et au fur et à mesure que les grandes barres, ces grands logements d'habitat collectif sortent de terre, eh bien on va détruire les baraquements du premier camp de travailleurs, du camp de prisonniers, etc. Ce village qui avait été réinvesti en 1951.
Tous nos quartiers, c'est pas valable simplement pour Basseau, ont changé de physionomie.
Au fur et à mesure, de nouveaux logements, de nouveaux HLM, comme on les appelle, sortent de terre. Et en 70, Basseau va devenir une zone d'aménagement concertée. Mais 1970, c'est aussi un coup dur pour le quartier, puisqu'en fait, au nom du progrès... En 1970, en fait, on va percer la Nationale 10, qui permet le contournement de la ville. Mais en fait, ce percement, cet aménagement de la Nationale 10, elle va couper en fait deux quartiers, le quartier de Basseau et le quartier de la Grande-Garenne, qui lui sort de terre dans les années 60. Et la Grande-Garenne, à l'origine, c'était un lieu qui était, au moment du fonctionnement de la poudrerie, en parfaite connexion avec la poudrerie, parce que c'était le lieu... en cas d'explosion, un lieu écran qui était Grande-Garenne, très boisé, et qui en cas d'explosion permettait de limiter en fait le souffle de l'explosion. Et donc on a le droit d'aménager cet ensemble que très tardivement. Mais en fait, à l'origine, Basseau et la Grande-Garenne sont complètement interconnectés et fonctionnent ensemble, mais le percement 1970 va complètement, là encore plus rejeter Basseau à l'ouest.
Qui ont été montés en 1957, par là. 56, parce que moi j'ai joué, et je me rappelle, on jouait dans les fondations.
Quand ils ont commencé à les construire ?
Ouais, on jouait dans les fondations, et quand ils avaient juste fait les fondations, là, à hauteur d'homme, là, comme ça, ouais. Avec les gamins, ça nous faisait toutes ça faisait un peu comme un labyrinthe, voilà.
On allait y chercher, ma mère allait y chercher un saut de sable pour que je m'amuse, je me
rappelle. Ouais. Ah, il n'y a plus grand-chose, hein. Je reconnais ces deux chênes, là. Alors, je reconnais bien ces deux arbres, là. Et pas de doute, hein. Ce chêne, et puis ça, c'est pas un chêne, c'est un autre arbre qui était derrière chez mon voisin.
Mais oui, enfin, j'ai vu la disparition des bâtiments, ouais. On y allait de temps en temps pour voir. Oh, mince, il n'y est plus. Et puis, notre maison qui était restée à la fin, ben, elle était détruite après, ouais. Ouais.
La deuxième moitié du siècle que nous vivons sera certainement marquée par la prolifération des cités rendues nécessaires au logement des populations qui viennent s'agglutiner autour des villes, souvent historiques, mais toujours inadaptées à un tel afflux de familles. Mais de tels ensembles vastes, qui réunissent de nombreux foyers sans d'ailleurs créer de communautés réelles, posent le problème de l'occupation des jeunes. Angoulême, où nous vous conduisons ce soir, n'échappe pas à cette loi.
Ah ben oui, on allait jouer sur les tas de sable. Ça, c'était important. Oui, oui, mais on était curieux d'abord de savoir ce que c'était, parce qu'on n'arrivait pas à comprendre ces grandes choses qui montaient comme ça. Et puis, il y avait les grues. On n'avait jamais vu de grues. Alors, on était heureux de voir tout ça, oui. Et puis, par contre, les gens qui y travaillaient, les ouvriers, c'était des gens simples, mais on pouvait poser des questions, ils répondaient. C'était important aussi pour nous, parce qu'on était très curieux, on voulait tout savoir, hein, tout connaître. Hein. Puis, on était pénibles, je vous le dis, hein, qu'on était pénibles. Mais... Alors, ils nous renvoyaient chercher leur paquet de cigarettes aussi, parce qu'il y avait le petit bar aux trois chaînes, peut-être vous en avez entendu parler. Alors on allait acheter les petits paquets pour les ouvriers. Alors, en même temps, ils nous donnaient 20 centimes, mon Dieu, je ne devrais pas le dire, 20 centimes, on achetait ce qu'on appelait un P4. C'était 4 gauloises dans un petit paquet, et puis on essayait de fumer, mon Dieu, quelle horreur.
Ils nous obligeaient
jusqu'en 1970.
12. Papa il est mort en 70, il n'a pas connu
le haut.
Quand on a déménagé. 71. C'est moi qui ai déménagé tout seul.
Et on est venu habiter dans le petit HLM qui est là, ici.
Voilà,
ici. Ma mère est venue s'installer là. Et elle est restée jusqu'à.
Après, elle est restée jusqu'à temps qu'elle parte à la maison de retraite. Hein. Voilà, alors je ne me rappelle pas de la date exacte. Hein.
Donc, en tout cas, votre maman est toujours restée dans le quartier.
Ah, c'était une figure emblématique du quartier. Hein.
Oui, elle était connue quand même.
Elle s'appelait comment, votre maman ?
Yolande.
Yolande Gauthier, donc.
D'accord. J'ai déménagé avec ma mère la nuit, avec une bourouette. On a amené vraiment le strict minimum. Tout le reste, ils ont tout couché avec la maison. C'est tout parti. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien de récupérable.
Et c'était, enfin moi je garde cette image de, je vous disais tout à l'heure, c'était des maisons légères, effectivement. Je crois que notre maison, allez, je vais dire en 3-4 minutes, elle avait disparu, quoi.
15 ans pour vous, 15 ans d'existence, en 4 minutes, rasé.
Oui, voilà, c'est ça. On prenait conscience, quoi, oui, que c'est ça, que c'était on changeait de vie, hein, complètement. Alors, il y avait des bons côtés dans le fait de changer de vie, mais il y avait beaucoup de nostalgie. C'est plus le même monde. C'est plus le même monde. Presque, si vous voulez, la même différence quand nos anciens disent « avant la guerre » et, vous voyez ce que je veux dire, un tel bouleversement.
J'en rêve encore. Ah oui. Je la revois comme hier, cette maison. Moi, je la revois comme elle est constituée. Je revois le voisinage. Je revois. Pour moi, c'est un déchirement de voir qu'on allait écraser tous ces bâtiments.
Qu'est-ce qu'elle a donc fait, la petite hirondelle, à nous a volé son petit grain de blé. Nous la rattraperons, la petite
Le patrimoine, en fait, est en constante évolution. Voilà, on voudrait en faire quelque chose de, figé, d'intangible, voilà. Mais en réalité, il ne cesse de s'augmenter. Et moi, je suis convaincue que le patrimoine, il doit refléter à un instant T une société. Les témoignages oraux, c'est une collecte qui est pratiquée depuis de nombreuses années dans les services d'archives. Mais c'est vrai qu'en Charente, on n'avait pas investi ce sujet. Or, le témoignage, en fait, c'est un point de vue. C'est pas forcément la vérité, c'est pas forcément l'histoire telle qu'elle se présente. C'est un point de vue à confronter à d'autres sources et qui peut amener justement cette dimension. Voilà, on parlait de la sécheresse administrative, bah, qui va pouvoir apporter ce côté précisément humain du souvenir. Les archives, quelque part, elles reflètent hein, le mode de fonctionnement d'une société. Mais si des fois, on n'est pas un petit peu proactif pour aller collecter, effectivement, sur des quartiers populaires, par exemple, sur des personnes qui s'estiment invisibilisées, etc., ben, forcément, cette démarche-là, elle ne se fait pas non plus d'elle-même. Mais effectivement, ça fourmille d'histoires individuelles.
Moi, c'est mon passé, moi, qui compte. Moi, qui compte, c'est pas qui compte. Non, j'aime bien. Je suis toujours dans... c'est les bons moments qu'on a eus. Parce que c'est... Les moments qu'on avait, on s'en rappelle toujours. C'est différent maintenant, hein. Tu connais. Tu peux plus te dire où ils étaient, nos autres places, des trucs comme ça. Hein. C'est assez différent.
Donc après, ils ont fait ce terrain de foot qui est en bas, qui ne sert plus d'ailleurs en plus. Ils ont construit toutes ces maisons. Enfin, voilà, le quartier a changé complètement de figure. Complètement de figure. La seule rue qui est restée, c'est cette rue-là, la rue centrale, là. Vous voyez ? La rue Saint-Vincent-de-Paul. C'est le seul repère qu'on a de assauts. Mais les gens qui viennent d'ici, bon, ils sont perdus, hein, complètement, hein. Voilà, complètement.
Et c'était pas riche, mais c'était pas misérable. Non, non, moi j'ai d'excellents souvenirs, hein, parce que c'est mon enfance, parce que j'y ai passé des moments agréables, j'ai rencontré pas mal de gens.
Quand on se voit, oui, c'est Bassot tout de suite.
C'est la seule chose qui les rapproche.
Ouais, ouais, c'est cette vie que l'on a eue. C'est vrai, ça a été quelque chose de très très fort. Hein. Mais mes frères et sœurs, c'est pareil, hein. Ils ont gardé ça et toujours encore, on en parle tout le temps.
Hein. J'ai eu des amis que j'ai toujours, madame.
Oui.
Voilà. Et que si je les rencontre n'importe où, on se jette dans les bras les uns des autres.
Ah ouais, non, vraiment. Moi j'ai toujours souvenir, puis je m'y vois encore. Hein. C'est incroyable. Hein.
Ah ouais. Oui, en fait, il y a eu des réunions d'anciens de Bassot, mais on rit. On rit de repenser à tout ce qu'on a vécu. C'était génial.
Mais il n'y en a plus aucun qui habite à Bassot. Plus aucun. Tous sont déménagés aux alentours, soit sur Saint-Michel, soit sur Fléac, aux alentours. Quoi.
Est-ce que ça a apporté sur ma personnalité, par exemple, vous voulez dire ? Ben, je crois la modestie, le fait de se dire... contente-toi de ce que tu as, enfin, voyez, quelque chose comme ça. Et puis, à la fois, le fait de m'en être sorti, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas une réussite extraordinaire, mais je me dis, s'il n'y avait pas eu Bassot, est-ce que j'aurais fait ce que j'ai fait, finalement ?
C'était des souvenirs familiers, Bassot, mémoire d'enfant des années 50.
Ah ben, il n'y avait pas la déviation, c'était des champs et des bois. Il n'y avait rien. Puis là, il y a des maisons qui existent, qui n'existaient pas. Hein. Tout le coin, c'était.
Un documentaire sonore, écrit et réalisé en 2024 par Léa Grange et Myriam Assoun.
On montait dans les arbres jusqu'à la cime. Aujourd'hui, on dit à un enfant qui veut monter dans l'arbre, on dit va pas si haut, redescends. À l'époque, on ne disait rien du tout, on se privait pas. Hein.
Avec les témoignages des anciens enfants de Bassot, Jackie et Claude Gauthier, Joël et Nadine Guinaud.
Mon frère, justement, qui est là, un jour, il avait voulu, tout jeune, il avait voulu fumer parce qu'on fumait n'importe quoi. Hein. On faisait un morceau de papier, on mettait des feuilles sèches dedans, on l'allumait. Ben, ça prenait plus feu qu'autre chose. Puis il avait mis le feu à la cabane.
Violette Locatelli-Carrère et Roger Carrère, Jean-Luc Arvaux, Alain Chérif,
je suis en train de raconter, Claude, quand tu avais mis le feu dans la cabane.
Philippe Gabot, ouais. Annie Triel et Mireille Gouge, Ahmed Assoun. Avec les interventions de Laetitia Copin-Merlet, directrice du service Pays d'art et d'histoire de Grand Angoulême, Axel Taruela, directrice générale adjointe de l'Ogélia, Marion Bernard, directrice des archives départementales de la Charente.
On habitait là.
Lecture des lettres.
Alors, c'était notre sortie parce qu'on avait que ça.
Lisa Lamazerolle, Héloïse et Arnaud Chaignon, Marie-Hélène Gesson, Johan Charrois, Edith Simor, Marc Tournier. Chanson, Leïla Lestrade. Une production Passerelle Images. Avec le soutien financier du département de la Charente, de l'Ogélia et des sentiers métropolitains. Ce documentaire a été réalisé en partie en résidence à La Rue, Association Régie Urbaine de Grand Angoulême, et au CAUE de la Charente. Document d'archives, INA.
gymnastique